Matthieu. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Demandez, cherchez, frappez. Il y a la pensée d'une prière, la pensée progressive d'une prière persévérante, insistante. Pour Jésus, la chose est simple. Demandez, et on vous donnera. Devant le tombeau de Lazare, Jésus ne voyait déjà plus un mort. Bon, Lazare, il voyait déjà un vivant. Il pouvait dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Extraordinaire, hein, c'est beau. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Merveilleux modèle. Nous avons Jésus-Christ. Par contre, Jacques, dans son épître, Jacques, qui est une épître avec un style direct, écrit, vous ne possédez pas car vous ne demandez pas. Le verset suivant, vous demandez et vous ne recevez pas car vous demandez mal. Enfin, ces deux choses, finalement, ils peuvent peut-être nous arriver, non? C'est pas... Il nous faut faire preuve, je crois, de beaucoup d'humilité. Nous n'avons pas toujours demandé tout ce que Dieu voulait nous accorder. Et puis, nous avons peut-être demandé des choses que le Seigneur ne voulait pas nous donner, ne voulait pas nous accorder. Alors, vous ne possédez pas, car vous ne demandez pas. Alors, on peut se poser quand même les questions. Qu'est-ce que je ne demande pas au Seigneur et qu'il voudrait me donner? Hein, il y a peut-être des choses quand même. Il se pourrait qu'à cause de notre faiblesse, les besoins matériels ou temporels passent avant les besoins spirituels. Il peut nous arriver d'avoir plus de désir pour les choses qui passent que pour les richesses éternelles. On est humain, on a besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous éclaire. Il faut bien sûr rester équilibré. On vit dans une maison de chair et d'os, et d'eau, et d'os. Nos besoins sont multiples. C'est pourquoi d'ailleurs Philippiens 4:6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En toute chose, les grandes, les petites aussi. Peut-être on peut négliger des petites choses quelquefois, hein. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient « Oh, mais non, mais j'aurais pas dérangé Dieu pour une chose pareille. » Mais Dieu, c'est pas un homme, c'est pas un PDG fort occupé, etc. Il est Dieu. Et c'est notre Père, et pour ses enfants, il est toujours disponible. Moi, je pourrais vous donner deux témoignages de guérison totalement différents. Quand Lucette a eu 14 ans, elle s'est retrouvée à un moment donné avec les yeux paralysés. Alors elle a été hospitalisée pendant une semaine, Charles-Nicolle. Et le diagnostic était très clair, au bout du jour, elle avait la sclérose en plaques. Bon, on a prié. On a demandé à l'église de prier. Quelque temps après, elle n'avait plus rien. Merci Seigneur. Et l'œil le plus atteint, il avait une 10 sur 10, il avait une vision parfaite. Merci Seigneur. Bon, un autre exemple, mais alors là pour une petite chose, un dimanche matin, Christine se réveille avec une fièvre à tout casser. Bon, elle n'était pas toute jeune déjà, mais on est parti quand même au culte, mais avant on a prié pour elle. Et quand on est revenu, la table était mise. On dit, mais tu vas mieux? Mais vous étiez à peine parti que il n'y avait plus de fièvre. Et avec un peu plus de foi, on pouvait l'emmener. Mais les petites choses et les grandes choses, n'hésitons pas. Le Seigneur est à l'écoute de ses enfants. Il veut les bénir. Par contre, nous avons aussi des besoins spirituels. Et en cela, la lecture journalière de la parole de Dieu, parole qui est le pain qui nourrit notre âme, est de nature à nous inspirer nos demandes selon la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, il était conscient des souffrances des églises. Il pouvait en être conscient parce qu'il avait déjà pas mal donné, souffert beaucoup, il savait. Mais il était conscient aussi de leurs besoins spirituels. Hein, dans Éphésiens 1,16, je vous lis dans la version Sommer, « Quand je fais mention de vous dans mes prières, je demande que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Donc il y a un sujet quand même spirituel. Il écrit à des chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit, bien sûr. Et il pouvait dire qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors, vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Et il parlait bien sûr de l'héritage qui nous est réservé dans les cieux. Il parlait de la puissance extraordinaire que Dieu manifeste à l'égard des siens. Je crois que nous avons vraiment besoin, dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, de recevoir par l'Esprit sagesse et révélation. Indispensables, qui sont vraiment indispensables pour connaître le Seigneur. On peut dire que les sujets de prière de l'apôtre Paul, pour les Éphésiens, pour les Colossiens, pour les Philippiens, etc., excusez-moi l'expression, mais ils n'étaient pas au roi des pâquerettes, quoi. Ah oui, mais c'est quand même intéressant. Ils avaient un but, la connaissance de Dieu. La connaissance de sa volonté, pour indispensable pour mieux l'aimer et mieux le servir, bien sûr. Alors, on peut être étonné quand Paul dit dans Philippiens 3,10 « Ainsi je connaîtrai Christ. » Paul, attends. Alors toi, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu le connais? Tu vois pas toutes les expériences que tu as faites? Tu as été ravi jusqu'au troisième ciel, tu as entendu des paroles ineffables, tu es incapable d'ailleurs de les répéter, ces paroles-là. C'est pas possible de répéter ces choses-là. Tu connais le Seigneur? Eh bien non. Il disait, ainsi je connaîtrai Christ. Et je crois que plus on connaît le Seigneur, plus on réalise, plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. On a besoin de le connaître mieux, qu'on a besoin d'une relation plus intime avec lui. D'ailleurs, le mot connaître, hein, c'est un mot très fort dans la parole de Dieu. La connaissance dont Paul parle n'est pas une connaissance intellectuelle, bien évidemment. Elle est directement liée à notre identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Il est indispensable. Et je crois qu'on a besoin de le réaliser chaque jour davantage, que notre nature charnelle soit sur la croix. C'est ainsi qu'on peut connaître Christ. Sinon, on pourra manifester que la vieille nature saupoudrait d'un brin de religion, quoi. Alors quand j'ai recherché un peu, prendre quelques notes concernant cette méditation, j'ai eu à cœur un ancien chant qui m'est revenu comme ça. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur. Alors j'ai recherché, j'ai regardé. Bon, il n'était pas dans les ailes de la foi. J'ai regardé dans les cœurs et cantiques pour trouver. Alors j'ai recherché un peu plus loin. Dans les vieux cœurs et cantiques, j'ai retrouvé. Et ce cantique disait « Connaître Christ et l'aimer sur la terre, c'est le bonheur de le racheter. » Le désirer comme un enfant sa mère pour demeurer dans son intimité. Amen. Et le refrain disait, parfaite paix, repos si doux, don merveilleux de mon céleste époux, je suis à lui, il est à moi, mon bien-aimé, mon sauveur et mon roi. Alors deuxième strophe, je voulais lire aussi, hein, pendant que j'y suis. J'ai pris plaisir à m'asseoir à son ombre, près de sa croix, je goûte chaque jour les fruits exquis de ses bontés sans nombre et sa bannière, sur moi, c'est l'amour. Alors la troisième strophe, elle dit, par ses attraits, le monde en vain me tente, de mon sauveur voulant me détacher, mais je le fuis, car mon âme fervente reste fidèle à son divin berger. Je vous livre la quatrième strophe. Ô que jamais du péché la souillure n'altère un jour ma robe de fin lin. Je veux attendre avec une âme pure celui que j'aime et qui du ciel revient. Je vous livre le cœur final. Il vient bientôt. J'entends ses pas. Ce grand espoir fait tressaillir mon cœur. Loin du désert, loin d'ici-bas, je le verrai dans l'éternel bonheur. Amen. Amen, amen. Sans désir profond, il faut l'admettre, sans aspiration profonde pour la personne de Jésus-Christ, on n'a qu'une religion. On n'a qu'une religion. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors là, il ne s'agit pas de notre manière d'expression. Il ne s'agit pas d'un manque de belles paroles, bien sûr. Nous savons que la prière, c'est d'abord une affaire de foi et de relation de cœur avec le Seigneur. Alors, la multitude des paroles, c'est un trait qui vient du paganisme, hein. Le Seigneur pouvait dire dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Alors la traduction sonore, elle dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir, bon, dans le but de dépenser pour vos plaisirs, d'assouvir vos plaisirs. L'apôtre Paul disait à Timothée dans les derniers temps, les hommes aimeront le plaisir, plus que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Ça, l'apparence de la piété, bon, pour dire que ce soit les inconvertis, ou les athées, ils n'ont pas l'apparence. Bon, méfions-nous quand même, car l'Église n'est pas encore au ciel, mais elle est déjà, à mon avis, impactée par le monde. La prière agréée n'est pas celle de celui qui frémit que pour lui-même, elle est plutôt celle de celui qui a des entrailles de miséricorde, car il a un cœur selon son Dieu. Il a un cœur selon son Dieu. Alors il peut nous arriver que la demande soit bonne, mais que nos motivations soient mauvaises. Dieu peut approuver l'objet de la demande, mais pas sa motivation. Dieu regarde au cœur, non à l'apparence. Il veut exaucer, mais il peut quelquefois y avoir des obstacles. Il peut y avoir des obstacles. Il nous est peut-être arrivé de prier par devoir, par obligation. Je me suis interrogé justement là-dessus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens devant Dieu. De prier seulement par devoir, seulement par obligation, parce qu'on est obligé. L'amour doit être toujours, bien sûr, la motivation première. Sinon, on est un airain qui résonne, cymbale qui retentit, vous connaissez. 1 Corinthiens 16, 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Alors, je ne veux pas parler trop longtemps, mais les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Les justes, ils ont une juste demande et ils ont une juste motivation. Amen. Amen.